Jérémy, tu voulais intervenir sur la question de la production, de la diffusion des contenus libres et la thématique art libre.
J'excuse Antoine Moreau, donc, qui n'a pas pu venir, donc, qui est le que je vais essayer de représenter. Donc, proche du logiciel libre, il y a quelques temps, il y a des artistes qui ont réfléchi à comment diffuser leurs œuvres autrement. Ça veut dire qu'ils sont dans le logiciel libre, ça s'échange, est-ce que l'art, à un moment donné, ça pourrait s'échanger? Donc ils sont partis sur une réflexion très théorique au départ et ils ont fondé une licence qui s'appelle la licence art libre, qui est maintenant d'un problème au début, une réflexion théorique, est devenue quelque chose de très pratique, et notamment, par exemple, pour les musiciens qui n'ont pas envie de dépendre de grands groupes ou de majors et qui ont envie de vivre leur vie en tant qu'artiste sur des concerts par la diffusion de leur musique, mais qui ont envie que leur musique se partage et soit donnée en disant que la culture, finalement, c'est un bien commun qu'ils devraient partager, que la musique, la musique Nawa m'a inspiré dans mon œuvre, la musique Nawa je l'ai eue gratuitement, et donc je suis pour donner ma musique. Par contre, quand je fais un concert, je suis pour être rémunéré. Donc c'est beaucoup d'artistes actuellement, notamment beaucoup de jeunes, beaucoup d'artistes musiciens, ça touche aussi des plasticiens, des vidéastes. Et actuellement à Paris, pour ces artistes qui s'engagent, qui croient en ça, dans cette démarche finalement d'une autre culture, hein, où on dit qu'on va gagner notre vie par nos représentations et plus seulement par la diffusion de nos œuvres, il y a peu d'espace de diffusion. Est-ce que la ville de Paris, et notamment au niveau des affaires culturelles, prévoit par exemple de soutenir ces artistes pour qu'il y ait des lieux de diffusion qui soient dédiés un peu aux artistes qui s'engagent dans l'art libre?
Alors, c'est peut-être déjà d'ailleurs et lancé un cri d'alarme sur la menace qui pèse actuellement sur les espaces culture multimédia, les ECM, puisqu'ils se sont développés depuis maintenant une petite dizaine d'années, et vous savez que le ministère de la Culture est en train de réduire dramatiquement leurs subventions. Je dis ça parce que ce sont des lieux de création et notamment de développement des arts numériques qui sont menacés actuellement par la politique de restriction budgétaire du gouvernement. Bon. Une fois que j'ai dit ça sur la notion de licence art libre, donc de pratique numérique ouverte, de partage, et l'idée qu'une œuvre évolue parce qu'elle est partagée et que chacun peut intervenir, c'est une notion de recyclage, de réutilisation, de remix. Sur tout cela, que dire? Évidemment, en ayant à l'esprit si fortement le débat sur Davzy il y a deux ans, dire que tout ça ne peut partir que évidemment d'une libre volonté de l'artiste en tant que tel. Je crois que c'est important. Je tiens beaucoup à la liberté de l'artiste et à son autonomie. Mais pour ceux qui font ce choix, qui essayent d'ailleurs par là même à réfléchir à de nouveaux modes d'exploitation des œuvres, à de nouveaux modes de diffusion culturelle, surtout quand la diffusion culturelle est en crise, comme on le sait, qui va l'être indépendant de major et d'un système de distribution et de diffusion, notamment musicale, qui montre ses limites, c'est la nécessité de réfléchir à une architecture et à un modèle économique nouveau. Donc c'est une réflexion aussi, c'est pas une réflexion non seulement sur le droit, sur l'adaptation du droit d'auteur, sur son évolution indispensable, c'est aussi une réflexion sur un nouveau modèle économique. Parce que je vois trop d'artistes plasticiens, notamment à Paris, qui sont érémistes ou qui doivent faire autre chose pour pouvoir vivre, pour ne pas poser la problématique de la rémunération de l'auteur et de la rémunération par là même du droit d'auteur. Cela dit, au-delà de ce que je viens de dire, il faut des lieux pour tout cela, il faut que ça s'inscrive dans le territoire parisien, et à travers ce qui se passe actuellement dans un équipement culturel que je connais bien, puisque c'est dans mon arrondissement, la Maison des Métallos, par rapport à ce qui est prévu à la Gaîté Lyrique, par rapport à ce qu'on peut développer dans différents droits,
104.
Au 104, bien sûr, oui, et créons les espaces pour ces pratiques numériques ouvertes, et c'est peut-être d'ailleurs dans ces espaces qu'émergeront à la fois effectivement ce droit d'auteur revisité et parallèlement ce modèle économique qui permette de rémunérer différemment et autrement, en tout cas libre de grands intérêts privés bien référencés, l'exploitation d'une œuvre et sa diffusion.
Alors, à l'heure actuelle, on arrive à ce que le nombre d'artistes qui ont fait ce choix, notamment beaucoup pour des musiciens ou des réalisateurs, de mettre leurs œuvres sous art libre, Il y en a actuellement pléthore sur Internet. On a une association qui a créé un site qui s'appelle Dogmasique. Et on s'aperçoit que malheureusement, ces fonds, où il y a vraiment des vraies pépites culturelles, ne sont pas référencés dans des lieux publics comme les bibliothèques parisiennes, par exemple.
D'accord.
Est-ce qu'il serait de votre intention d'encourager à ce que dans les bibliothèques qui sont des lieux d'éducation populaire, on l'a dit, hein, donc, serait de pouvoir missionner les bibliothèques pour qu'elles puissent référencer ces œuvres et les faire découvrir au grand public? Donc ce sont des œuvres qui sont diffusables, première question. Et deuxième question qui nous vient à tous, mais là, souci qui est plus grande, à partir du moment donné où la ville de Paris donc, met les bibliothèques, c'est la chaîne pour le bien commun, qu'est-ce que vous comptez faire justement quand on parlait justement de savoir qu'on puisse finalement bénéficier des logiciels libres pour plus s'éduquer, pour que les fonds documentaires de la ville de Paris soient accessibles à tous, par exemple sur Internet? Deux questions.
En ce qui concerne, on a parlé des centres sociaux, des centres d'animation, des EPN, les bibliothèques contribuent à tout cela de manière forte. Donc, intervention, je ne me suis jamais posé la question sur ce problème de référencement, mais je vois pas d'obstacle. Une bibliothèque par essence, c'est là où on doit tout trouver, normalement. Hein,
voilà. D'autant qu'on ouvre des... La médiathèque Marguerite Yourcenar, donc qui normalement devrait, logiquement, hein, mais peut-être qu'elle ne le fait pas encore tout à fait, être ouverte à toutes les formes d'art. Puisque ce n'est plus une bibliothèque, c'est une médiathèque.
Donc le tout, oui, effectivement, en termes de référencement, je n'y ai pas réfléchi, mais a priori, je vois au contraire, hein, je veux dire, ça correspond. Sur la seconde partie de votre interpellation, c'était sur...
C'était que les œuvres, donc tous les documents de la ville de Paris
soient
accessibles sur Internet, qu'il y ait un travail de numérisation, par exemple, qui soit fait pour qu'on puisse retrouver, qu'on puisse, par exemple, accéder à des documents de biens publics, comme un livre ou des documents vidéo qui seraient faits. Et voilà, pareil, que la bibliothèque s'élargisse un peu à une bibliothèque virtuelle sur Internet, si vous y avez pensé.
C'est une ambition évidemment louable, hein, et à laquelle nous souscrivons. J'imagine que dans la façon de le mettre en œuvre, il faut dégager quelques moyens supplémentaires. Ça devrait être fait. Enfin, je souhaite que ce soit fait.
Je peux ajouter que, par exemple, on a numérisé tout le fond du Forum des images. Hein. Il y a énormément de films sur Paris. Ça a coûté très cher, comme dirait François Dagneau, mais je pense que la question de l'accessibilité de ce fonds cinématographique peut être tout à fait posée. Il va falloir qu'on y travaille.
Et puis on développe tout ce qui est administration électronique, ce qui est aussi une façon de mettre à disposition du plus grand nombre des éléments qui étaient jusqu'à présent plutôt confidentiels. Donc il y a des choses qui se mettent en place, des dynamiques qui sont lancées et dans lesquelles... Vos suggestions, on devrait pouvoir trouver tout en place.
Et même les débats du Conseil de Paris, on peut les suivre par Internet, ce qui d'ailleurs ne calme en rien les débats. Mais...
C'était pas plus du jeu, au contraire.
C'est tellement plus intéressant que
ces
films.
Mais c'est déjà sur Internet.
De manière générale, on a abordé un large choix de thématiques. Comment, de manière très pragmatique, avoir... sur le logiciel libre et les thématiques approchées, le soutien de la ville de Paris et comment l'avoir au niveau de nos associations ou des projets, au niveau des projets qui sont parfois par des groupes, des structures informelles, des petits groupes de gens qui se réunissent pour développer sur un projet donné. Comment avoir d'une part un soutien, une aide de ce côté-là et comment d'autre part travailler ensemble, pouvoir amener notre expertise. C'était la thématique que vous voulez aborder, Alix.
Oui, donc il y a cet aspect de soutien aux associations de logiciels libres, peut-être aussi parce qu'on a parlé de start-up avec le protocole d'accord avec Microsoft, qui n'a pas de concrétisation pour l'instant. Des start-up parisiennes dans le logiciel libre, il y en a énormément, vous le savez. Donc quel soutien la ville de Paris peut apporter à tous ces projets libres, qu'ils soient associatifs ou plutôt business, et comment est-ce que la ville de Paris pourrait s'inscrire dans la durée dans un partenariat avec les structures fondatrices de la promotion et de la défense du logiciel libre en France.
Peut-être sur les startups pour commencer.
Vas-y.
Bon, les startups du logiciel libre sont tout à fait bienvenues et peuvent être accueillies dans les incubateurs et pépinières qu'on a mis en place, hein, dont la surface est passée de 5 000 à 40 000 mètres carrés en 6 ans. Et il y a à République Innovation dans le 19e arrondissement. Bon, nous avons des capacités d'accueil. Hein, et là, c'est une première chose. Deuxièmement, nous pouvons accompagner ces startups car l'hébergement est, si je puis dire, épaulé par un accompagnement sur tout ce qui est paperasse administrative, cherche de financement, etc. Et puis, troisièmement, nous pouvons aussi aider à financer ces startups, surtout si elles travaillent dans le cadre de pôles de compétitivité. On avait commencé cette conversation en parlant de deux pôles de compétitivité, cadre digital d'un côté, systématique de l'autre. Bon, l'an dernier, on a investi, on a fait du capital risque, hein, ce qui n'est peut-être pas tout à fait dans la vocation de Paris, mais ne le répétez pas. Bon, on a investi près de 6 millions d'euros dans des start-up parisiennes. Bon, et a priori, si des entreprises ou des associations, mais qui doivent quand même avoir un caractère économique, hein, car sinon, on n'est pas dans le domaine de l'économie, on est dans le domaine de la vie sociale, ce qui est très bien, mais c'est une autre rubrique. Eh bien, donc, on peut soutenir ces start-up. Paris soutient tous les projets, et particulièrement dans le domaine du logiciel libre. D'ailleurs, je remets le pacte du logiciel libre que j'ai signé comme candidat au président de l'association April.
Merci beaucoup.
Il y a un point que je voulais reprendre sur le soutien aux associations. Alice a parlé des associations de défense du libre. Moi, je voudrais parler des associations qui font le libre. Alors, Patrick Bleuch faisait référence à sa visite au salon Solutions Linux la semaine dernière. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce détail topographique sur le salon. Il y a 85-90% du salon qui est constitué d'entreprises, qui est un salon de professionnels tout à fait normal. Des entreprises, petites, grandes, énormes, qui achètent à l'organisateur du salon des mètres carrés pour présenter leurs produits et faire du business. Parfaitement voilà. Et il y a au fond du salon 10-15% de la surface qui est réservée à des associations. Les associations ne payent pas. C'est-à-dire que les organisateurs du salon ont prélevé cet espace et au lieu de le louer à des entreprises, ils invitent toutes les associations qui veulent. C'est Parinux qui coordonne d'habitude. Parce que, en fait, il y a une raison à ce choix. C'est que tous les produits que vendent les grands groupes du monde du libre, les IBM, les Novell, etc., plus de 9 fois sur 10, ça a été développé à la base par des associations. Et souvent par des associations qui n'existent même pas. C'est-à-dire, Linux, vous ne trouverez pas l'association déclarée en préfecture de nulle part. Vous ne trouverez pas la non-profit organization déclarée à Washington. Je pense qu'elle n'existe même pas. C'est-à-dire, Linux, c'est quoi ? C'est un groupe de personnes qui travaillent ensemble et qui a à peine une existence légale. C'est-à-dire quand les juges... voilà, il y a la fondation qui a été créée après, mais quand ça a commencé en 91, c'est M. Torvalds tout seul chez lui qui discute avec des gens sur Internet. Ce qu'on appelle dans le droit français une association de fait. Dans le monde du libre, il en reste énormément. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de logiciels, de solutions qui tournent et qui existent soit sous forme d'associations déclarées, soit sous forme d'associations de fait et qui produisent cette richesse-là. C'est-à-dire que l'innovation dans le monde du livre, elle vient beaucoup de là. C'est très compliqué pour ces associations de vivre, c'est-à-dire d'avoir ne serait-ce qu'un lieu où se rencontrer. C'est-à-dire un endroit dans lequel on peut... Alors généralement, ça se fait au bistrot, mais...
Ici, à la cantine.
Oui. Donc, créer des lieux ou travailler, ou se rencontrer, tout simplement. C'est-à-dire que, moi, il y a plusieurs des groupes de développement sur lesquels je travaille, où on est répartis sur toute l'Europe. C'est-à-dire qu'en France, on est 2, en Allemagne, ils sont 3, en Grande-Bretagne, ils sont 3, etc. On se voit jamais. Rien que pouvoir se croiser et travailler ensemble, c'est une richesse formidable. Ça demande de l'aide. C'est une forme d'aide à l'innovation qui ne va pas rentrer dans un cadre économique. C'est-à-dire que je ne serais pas capable de vous mettre une entreprise en face. Au mieux, on peut créer formellement une association en face qui va apporter ce type d'aide. Mais je ne saurais pas le rentrer dans un modèle économique. Et il me semble que Paris peut avoir un rôle clé là-dedans, de catalyseur d'innovation, si je puis dire. Surtout pas pour aller financer ces associations qui n'en ont pas besoin. Elles n'ont pas besoin de salaires ou de locaux, etc., etc. Elles ont besoin d'un coup de pouce. Sur tel projet logiciel, les développeurs qui sont répartis partout en Europe, on les invite à passer une semaine ensemble à travailler à Paris. Sur un sujet donné, ça coûte le prix du billet d'avion et il en ressort un bond en avant formidable pour le logiciel en question. Et il nous semble que ce soutien aux associations pourrait se formaliser. Est-ce que vous avez des idées sur le sujet? Est-ce que ça fait partie des sujets auxquels vous pouvez être sensible?
De la même manière que le soutien à des opérations d'éducation populaire n'a pas de retour économique quantifiable direct, le soutien aux communautés du logiciel libre n'est pas quantifiable. On ne peut pas le mesurer, on peut difficilement même l'observer.
C'est un peu différent du moins.
Le soutien aux communautés, même si il est difficile de le mesurer ou même d'observer le lien de cause à effet, on sait qu'il n'y a pas de projet logiciel libre dynamique sans une communauté derrière. Un projet ne peut pas durer, ne peut pas être pérenne s'il n'y a pas une communauté d'utilisateurs, une communauté de contributeurs. Est-ce que, dans la même logique que on investit dans l'éducation parce que on sait que c'est prouvé socialement que ça bénéficie à la société, est-ce que vous investiriez, entre guillemets, dans le soutien aux communautés pour que ça profite à l'écosystème globalement du logiciel libre?
Si je puis me permettre, oui, parce vas-y. Que... Là, je suis allé effectivement au salon et j'ai vu effectivement, on a commencé d'abord par les entreprises, beaucoup de PME, de micro-entreprises, qui d'ailleurs ont besoin se constituer en réseau. Et puis après, on est arrivé effectivement à ce que ça s'appelle d'ailleurs le village associatif. La notion de village associatif d'ailleurs ayant un caractère, voilà, ça rappelle quelques forums mondiaux ou internationaux. Bon. Évidemment que pour le logiciel libre, cette communauté associative est un élément de créativité qui après trouve leur développement sur le plan économique à travers des entreprises et tout cela. Mais je veux dire que là, on est dans une problématique que je souhaiterais globaliser, généraliser. Parce que finalement, la manière dont vous nous interpellez, c'est un peu, je dirais, l'interpellation qu'on reçoit globalement du milieu associatif. Vous intervenez finalement comme le ferait le responsable d'une association culturelle, avec des besoins d'avoir dans la ville des lieux de rencontres, d'échanges, d'accueil et tout ça, etc., dans un cadre inévitablement bénévole et militant, sans qu'il n'y ait aucun moment l'idée d'une rentabilité quelconque à l'arrivée, mais parce que ça contribue à notre richesse collective. Et ça, c'est vraiment... c'est vraiment au cœur d'une démarche plus globale qui a été notre soutien à la vie associative. 20 maisons des associations, la recherche de locaux, de réunions, de rencontres, de travail, tout ça, etc. Donc je voudrais inscrire ça dans ce cadre plus global parce que c'est une demande, je dirais, à la fois intellectuelle, culturelle, mais aussi sociale, qui est faite par tous ceux qui créent, qui imaginent, qui font la richesse de la ville.
J'ajoute deux remarques. Bon, moi, je suis l'adjoint au développement économique, donc j'ai des œillères. S'il y a autre chose que l'économie, on ne financerait pas le Théâtre du Châtelet, que nous adorons tous. Donc, le critère économique n'est absolument pas indispensable. Par contre, il y a un critère juridique qui est important, et que François et moi, nous connaissons bien, c'est que pour qu'on donne de l'argent, il faut qu'il y ait une délibération du Conseil de Paris. Et pour qu'il y ait une délibération du Conseil de Paris, il faut qu'il y ait un partenaire juridique en face. On peut financer un événement, on peut financer une association, mais financer une association de fait, à mon avis, ça relève de l'héroïsme. Donc, il faut, si vous voulez monter un événement, vous créez une association ad hoc pour cet événement. Il faut qu'il y ait un minimum de support juridique, sinon, malheureusement... on a dans un passé lointain financé des associations de fait assez curieuses. Donc il faut un minimum de rectitude juridique. C'est quand même pas très très compliqué, mais je crois que c'est indispensable.
C'est bien évident. La question n'est pas de financer une nébuleuse difficilement identifiable. La plupart de ces communautés sont constituées en associations de loi de 1901.
C'est parfait.
Elles ont déjà une existence juridique.
Oui, donc, à l'appui d'un projet, il y a une demande de subvention.
La question, c'est pas tellement d'aider une communauté ou une autre. Ce serait plutôt de mettre à disposition, comme le disait Benjamin Bayard, de mettre à disposition des lieux, peut-être un peu comme ici, mais qui sont tellement trop rares dans Paris, où on puisse, avec une gestion commune, où on puisse réserver une soirée pour une réunion des membres associations, par exemple, pour l'April, ou alors une réunion pour Paris Nux qui va chercher à faire une formation, une sensibilisation des Parisiens. Voilà, c'est plutôt d'avoir quelque chose de disponible, parce que les financements, c'est bien, mais quelque part, l'argent, ce n'est pas tellement l'argent qui est important que les commodités dont on peut disposer.
Est-ce que vos associations sont inscrites dans les maisons d'associations? Patrick Bloch vient de vous le rappeler, nous avons ouvert depuis 2001 20 maisons d'associations, une maison d'association dans chacun des 20 arrondissements. Il suffit d'y être, entre guillemets, référencé pour pouvoir accéder à des mises à disposition de locaux de façon ponctuelle et régulière. Exactement, un service qui est d'ores et déjà à votre disposition.
Je voudrais juste reprendre, en fait, je bouille, c'est pour ça que j'interromps Félix,
parce que... Le contexte avait une hausse de la température.
Pour s'orienter, si vous voulez, ça me paraît finalement mal posé. Donc, je vais essayer de reformuler différemment. Quand Benjamin, il dit qu'il y a des communautés de faits qui ont développé Linux, ça a un impact économique énorme. Combien d'entreprises actuellement ne dépensent pas Linux? Combien de projets actuellement sont faits? Donc, quand on dit qu'il faut penser des lieux, c'est pas des maisons d'associations qu'on peut se réunir pour discuter. Là, il s'agit d'aider des communautés de développeurs qui, dans leur façon, on l'a vu par rapport à Paris, ne pensent pas gagner d'argent. Mais par contre, le bien économique que ça peut apporter pour la société immédiate française, parce qu'il y a beaucoup de logiciels libres qui ont été développés par des communautés, qui ont permis à des entreprises par ailleurs de prendre leurs produits et de vivre, et ça crée de l'emploi. Donc la question, pour ça que je me permets de reformuler, la question de Benjamin, c'est pas d'aider finalement des associations ou des lieux, c'est vraiment comment, ça c'est très subtil, la ville de Paris pourrait soutenir des communautés qui font du logiciel et qui par ailleurs après vont générer une ressource, parce que à l'heure actuelle, un lieu comme ça, ça peut exister pour accueillir des réunions, ça peut bien, mais des fois il y a besoin d'avoir 50 personnes, il y a besoin à un moment donné de payer des trains pour que les gens se rencontrent, de faire venir des gens du Brésil parce qu'ils ont telle expertise sur la vidéo et qu'on a besoin de se parler, etc. Alors après, la réponse que vous avez dit, Benjamin, c'est ne vous inquiétez pas, les associations, on sait faire, il y a April, il y a EDN. Par contre, on ne sait pas comment vous mobiliser, comment on pourrait travailler avec vous pour que ça soit possible.
Mais là, on essaye de vous expliquer, c'est plus simple que votre demande est une demande qui est formulée dans bien des domaines. Et je veux dire, par là, à partir du moment où il y a des structures juridiques transparentes et référencées en tant que telles, ça peut être un événement, ça peut être un moment, ça peut être quelque chose dans la durée, ça peut être mise à disposition d'un espace, 3 mois, 6 mois. Enfin bon, il y a 1000 possibilités, on a beaucoup d'ingéniosité et on essaye de gérer intelligemment et en fonction de l'intérêt général, ce qui n'est après tout que l'argent de nos concitoyens, voilà. L'argent public.
On a atteint les limites du temps imparti, je pense qu'on a eu...
J'aurais voulu juste vous poser une dernière question pour terminer, parce que tout à l'heure, vous avez dit que la mairie de Paris, le Conseil de Paris avait adopté un vœu de faire appliquer le RGI. Est-ce que, clairement, ce vœu, vous le concrétiserez dans le prochain mandat, si vous avez toujours les rênes de la mairie de Paris?
Et oui, puisque le vœu... Il faut qu'on soit en responsabilité, bien sûr. Hein. Ça ne dépend pas de nous, mais des électeurs. Mais en l'occurrence, oui, ce vœu que nous avons déposé et fait adopter par le Conseil de Paris, et voilà, c'est quelque chose que nous nous imposons d'abord à nous.
C'est un engagement.
C'est un engagement.
C'est un engagement que vous mettrez en application avec des déploiements de suites bureautiques respectant les standards.
Tout ce que l'interopérabilité nécessite, voilà, en standard ouvert, en accès, enfin, en partage et tout ça. Voilà.
Merci.
Merci. Je voudrais d'abord remercier le lieu, la cantine, de nous avoir accueillis, d'avoir permis ce débat riche et enrichissant de manière générale. Je vois au grand signe que fait Stéphane Distinguin, président de l'association Silicon Sentier, qui porte le lieu, qu'il serait ravi d'accueillir régulièrement des animations liées au logiciel libre dans le lieu. On parlait de lieux où il serait possible de se réunir. Je voudrais remercier bien sûr tous les intervenants sur le débat. À la fois ceux qui ont posé les questions et ceux qui ont répondu aux questions, et tous les gens présents, merci à tous, et à suivre. Donc on verra la façon dont le logiciel libre fera partie des projets dans la prochaine mandature, et de manière générale à Paris. Merci à tous.